Depuis 2 heures à Paris, 1 heure en temps universel, bienvenue sur la Radio du Monde.
Antoine Galen.
À la une, l'émotion à Tel Aviv, 4 corps d'otages ont été remis par le Hamas. On fait le point en début de journal. Au Mexique, les ONG s'inquiètent. Le gel du financement de l'USAID ordonné par Donald Trump les met en grande difficulté. Reportage à suivre dans un refuge dédié aux migrants issus de la communauté LGBT. Dans ce journal également, Washington sanctionne des responsables rwandais et congolais du M23. Et puis en Inde, le parti nationaliste hindou de Narendra Modi a nommé une femme pour diriger la région de New Delhi. Journée de deuil en Israël, alors que les 4 corps remis par le Hamas ont été remis, une minute de silence a eu lieu sur la place des otages ce jeudi. Au moment de la remise des cercueils à la Croix-Rouge, la stupeur et l'émotion ont traversé la foule. Pierre-Olivier était sur place.
L'écran géant qui retransmet habituellement les retrouvailles des otages avec leurs familles est resté noir ce jeudi. Mais les images des 4 cercueils remis par le Hamas circulent sur les téléphones et ravivent les douleurs.
Moi j'ai la gorge qui serre, j'arrive pas à parler, c'est pas normal, on peut pas tuer des enfants comme ça.
À quelques mètres, ce grand-père de 3 petits-enfants a accroché une peluche d'ourson sur un drapeau israélien.
Il y a un mois, c'était l'anniversaire de Kfir. Et aujourd'hui, il revient dans un cercueil. Je ne suis pas en colère, je suis triste. Que ressentir d'autre quand on voit le cercueil d'un enfant ?
Sur les images, on voit au-dessus des cercueils une affiche installée par le Hamas. Dans une tache de sang, la famille Bibas souriante.
C'était sordide, comme tout le reste. Il y a une image très forte, je trouve, c'est que le temps que les cercueils arrivent jusqu'en Israël, il faisait un temps atroce. Les cercueils sont arrivés sous la pluie et arrivés sur la terre d'Israël. Le soleil est revenu et peut-être que ça va nous apaiser un petit peu, je sais pas, il y a un rayon de soleil qui est apparu.
Une fois les cercueils rentrés en Israël sur la place des otages, c'est en chantant que certains ont décidé d'honorer la mémoire des défunts. Pierre-Olivier, Tel Aviv, RFI.
Et ce vendredi, Israël affirme que l'un des corps remis par le Hamas n'est pas celui de l'otage Shiri Bibas. L'État hébreu exige le retour de son corps ainsi que le reste des otages. Le Hamas s'est dit prêt à libérer en une seule fois tous les otages restants. Pendant ce temps, des explosions ont touché 2 bus vides à Tel Aviv ce jeudi. Conséquence, le ministre de la Défense israélien a ordonné l'intensification des opérations en Cisjordanie occupée. Ce vendredi, une rencontre est prévue entre plusieurs dirigeants arabes à Riyad. L'objectif, trouver une réponse face à la proposition de Donald Trump. Le président américain veut transformer l'enclave en une riviera et déplacer les plus de 2 millions de Palestiniens. Gaza, où l'armée israélienne a tué plus de 48 000 Palestiniens, en majorité des civils. RFI, 19h03 à Mexico. Depuis que Donald Trump a gelé le financement de l'aide au développement, autrement dit l'USAID, les ONG mexicaines craignent pour leur survie. C'est le cas de Casa Frida, une association qui fournit un refuge aux migrants issus de la communauté LGBT. Plus de la moitié de son financement qui venait des États-Unis a été suspendu. Reportage à Mexico City de notre correspondante Marine Lebec.
C'est l'heure du cours de salsa à Casa Frida. Les résidents descendent dans la cour du refuge et tout le monde entoure la bénévole qui s'improvise professeur pour l'après-midi.
Beaucoup de monde est venu nous aider sous forme de volontariat.
Mariana de la Cruz est l'une des responsables de Casa Frida. Depuis le gel du financement américain, le refuge a dû trouver des alternatives plus économiques. Et pour cause, 60% de son budget dépendait de ces aides.
On a 5 projets en cours qui devaient être financés par les États-Unis. Mais depuis que la nouvelle administration américaine a publié ses décrets, leur financement a été suspendu pour 90 jours. Et comme il s'agit de la communauté LGBT et des migrants, on a très peu d'espoir de les récupérer.
Une situation qui met en danger la survie du refuge. Assise dans un coin du patio, Johanna, une péruvienne de 36 ans, le sait. Pour elle, l'heure n'est pas à la danse.
Je suis partie de mon pays car j'y subissais une violence extrême. Ici, ils m'ont accueilli les bras ouverts. Mais maintenant, je ne sais pas ce qu'il va se passer, s'ils vont pouvoir continuer à m'aider. Si ce refuge ferme, je ne saurais pas où aller. Je terminerai sûrement dans la rue sans la protection que m'apportait Casa Frida.
À l'image de ce refuge, les organisations humanitaires mexicaines doivent désormais faire sans les 100 millions de dollars qu'elles recevaient des États-Unis. Marine Lebec, Mexico, RFI.
Direction la République démocratique du Congo, où des sanctions américaines ont été annoncées contre des responsables rwandais et congolais du M23. Elles sont financières et visent des responsables bien connus du mouvement armé soutenu par le Rwanda. Leur emprise s'étend sur l'est de la République démocratique du Congo. RFI Washington, Guillaume Nodin.
Ce sont Kabarebe et Kanyuka qui sont dans le viseur du Trésor américain. Son communiqué dénonce très clairement leur rôle dans l'organisation et la progression dans l'est de la RDC du mouvement armé M23 soutenu par le Rwanda. James Kabarebe est le ministre rwandais de l'intégration régionale et il est présenté comme ayant un rôle central dans le soutien au M23 et dans son organisation militaire. Il est d'ailleurs un ancien général des forces armées rwandaises. Le communiqué du Trésor lui attribue aussi un rôle clé dans l'extraction et l'exploitation des ressources minières dans l'est de la RDC. Laurence Kanyuka est lui le porte-parole civil du mouvement M23 et Alliance Fleuve Congo. À ce titre, il est accusé par les États-Unis de participer activement à la déstabilisation dans l'est de la RDC. Les sanctions consistent essentiellement en des gels d'avoir des personnes concernées et des entités leur appartenant, comme deux sociétés de Kanyuka basées à Londres et à Paris, qui sont également sanctionnées. Pour le département d'État américain, les prises de Goma à la fin janvier et de Bukavu ensuite, ainsi que la rapide expansion du M23 dans l'est de la RDC, ont conduit à des milliers de morts civiles et à des déplacements forcés de population, et cela risque de dégénérer en conflit régional. Les États-Unis appellent à un retour à la négociation et au respect de l'intégrité territoriale de la RDC. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
En Inde, le parti nationaliste hindou BJP de Narendra Modi soigne sa prise de pouvoir dans la capitale. Il a remporté les élections à New Delhi après 27 ans d'absence. Un coup dur pour l'opposition en Inde. C'est Rekha Gupta, une fidèle du parti, qui a été choisie pour diriger la région de la capitale. Un signal envoyé à l'électorat féminin du pays, comme Bastin à Bangalore.
Ce jeudi, l'enthousiasme était à son comble parmi les partisans du Premier ministre dans la capitale. Rekha Gupta, la nouvelle dirigeante de New Delhi, prêtait serment. Le parti AAP, qui a incarné pendant 10 ans une résistance à Narendra Modi, a finalement été vaincu lors des législatives le 8 février. Rekha Gupta est une militante fidèle des nationalistes hindous, dont elle rejoint les branches idéologiques et politiques en tant qu'étudiante. Elle entame ensuite sa carrière politique à Delhi comme conseillère municipale. C'est la seule femme ministre en chef des 15 États dirigés par le BJP, un choix remarqué par la presse. Inconnue il y a quelques jours, Rekha Gupta doit désormais tenir les promesses du BJP pour la capitale de l'Inde. Des mesures sociales comme des aides financières pour les femmes ou des assurances médicales pour les plus pauvres. Surtout, un plan d'action environnementale contre la pollution catastrophique de l'air et de la rivière Yamuna. Beaucoup l'ont promis sans résultat. Autour du BJP de s'y essayer. Comme Bastin, Bangalore, RFI.
On termine en musique avec la chanteuse française Santa, l'une des nouvelles têtes d'affiche de la variété française. Samedi dernier, lors de la 40e édition des Victoires de la Musique, elle était nommée dans 4 catégories. Elle a remporté le prix du meilleur album pour le disque Recommence-moi, Edmond Sadaka.
Je pourrais jouer le faux héros au milieu des flammes.
Avec sa voix puissante, ses textes intimistes et surtout sa présence sur scène, Santa connaît une formidable ascension depuis environ 2 ans. Son premier succès, elle l'a composé seule dans sa chambre, devant son ordinateur, d'ailleurs sans trop y croire puisqu'elle ne pensait même pas sortir ce titre.
Allez viens, je t'emmène loin, regardez le monde.
Ce sont mes amis qui m'ont dit « Il faut absolument que tu sortes cette chanson, elle va faire du bien aux gens. » Voir des enfants chanter en concert avec leurs parents, leurs grands-parents, c'est le début de cette histoire, je l'espère.
Il y aura du popcorn salé.
Sur scène, Santa multiplie les performances spectaculaires. Il y a quelques jours, aux Victoires de la Musique, elle a chanté suspendue dans les airs, la tête en bas. Quelques mois plus tôt à Bruxelles, en plein centre-ville, elle a joué sur son piano à queue à 40 mètres du sol, devant plus de 10 000 personnes. Pour sa tournée des Zéniths cette année, la chanteuse de 33 ans rêve d'une scénographie à couper le souffle, à l'image de celle d'une Beyoncé, même si elle admet ne pas en avoir les moyens financiers pour le moment. Mais pour la jeune niçoise, l'histoire, il est vrai, ne fait que commencer.
Tu feras la différence. Ton cœur prend des vacances. Il danse avec les loups. Résiste. Tu feras la différence. Quand le cœur de l'enfant
c'est un récit. Titre extrait du premier.